clients sans t'abonder. Mais...
Quand nous lisons les évangiles, plusieurs paroles de Jésus et plusieurs de ses actes nous surprennent, nous interpellent et parfois nous laissent perplexes. J'aimerais ce matin considérer avec vous un épisode de la vie de Jésus que l'on peut mettre dans cette catégorie des actions de Jésus qui pour le moins interrogent et surprennent. Jugez-en par vous-même. Nous sommes dans le désert, celui de Judée. Et ce jour-là, il y a là la foule des grands jours. Ils sont venus de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain, dit le texte. Mais que font tous ces gens à cet endroit-là ? Approchons-nous un peu pour voir de plus près ce qu'il en est. Et si nous nous approchons un peu plus, et si nous regardons bien, nous constatons que la foule est assemblée autour d'un homme. Un homme qui enseigne. C'est certainement un homme de Dieu parce qu'il prêche la repentance. Ce dernier détail vient peut-être de vous faire comprendre, si vous hésitiez, que l'homme en question n'est pas Jésus, mais c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste appelle la foule non seulement à la repentance, mais comme son nom l'indique, il baptise. Jean le baptiseur. Il baptise dans le Jourdain qui passe à cet endroit-là toutes celles et tous ceux qui répondent à l'appel qu'il lance à la repentance et qui se détournent de leurs péchés. La foule est nombreuse et anonyme. Pourtant, si nous nous approchons un peu plus et si nous y regardons d'un peu plus près, il y a dans cette foule quelqu'un que nous connaissons bien, puisqu'il s'agit de Jésus. Jésus qui, incognito, s'approche de Jean-Baptiste. Mais que fait Jésus là ? Est-il venu pour enseigner la foule ? Est-il venu pour baptiser lui aussi ? En réalité, rien de tout cela. Le voilà qui se dirige droit vers Jean-Baptiste. Sans doute est-il venu pour le saluer, pour l'encourager peut-être, ou pour le remercier. Mais il ne s'agit pas de cela non plus. Jésus vient à Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Alors que Jésus s'approche de lui, Jean-Baptiste le reconnaît. Leur mère, Marie et Élisabeth, sont de proches parentes. On dit généralement qu'elles sont cousines, mais le mot qui est utilisé ne nous permet pas de définir précisément le lien de parenté. En tout cas, c'est une parenté proche. Ils se connaissent. Jean-Baptiste connaît Jésus. Il sait, et c'est l'évangile de Jean qui nous le rapporte, que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il sait que Jésus est sans péché. Mais alors, que fait Jésus là parmi tous ces pécheurs qui viennent recevoir le baptême de la repentance ? Pourquoi s'avance-t-il avec ceux qui attendent pour se faire baptiser ? Se pourrait-il que Jésus veuille se faire baptiser par Jean ? C'est absurde. Si c'est cela, alors ça n'a pas de sens. Et pourtant, c'est bien de cela dont il s'agit. Et Jésus se tient là devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Impossible. D'ailleurs, Jean refuse. Il s'oppose à la requête de Jésus. Il ne comprend pas. « C'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, dit-il à Jésus. » Et c'est toi qui viens à moi ? Mais Jésus insiste. Sa réponse est sans appel. Laisse faire maintenant, dit Jésus, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. Alors Jean se soumet. Il accepte, il accède à la requête de Jésus. Qu'a-t-il compris de toute cette affaire ? Sans doute pas tout, mais là n'est pas l'essentiel. Et Jean baptise Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve le baptême de Jésus pour le moins surprenant. Pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser ? Quel est le sens du baptême de Jésus ? Jésus avait-il besoin de se faire baptiser du baptême de la repentance ? Avant de poursuivre notre réflexion, je vous invite à la lecture du texte que je viens d'évoquer dans cette introduction. Et nous lisons dans l'évangile de Matthieu, je lis au chapitre 3 à partir du verset 1. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 17. En ces jours-là parut Jean le baptiseur. Il proclamait dans le désert de Judée, « Changez radicalement car le règne des cieux s'est approché. » C'est de lui qu'il a été dit par l'entremise, par l'entremise du prophète Ésaïe. C'est celui qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de criquets et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui et recevaient de lui le baptême dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Comme il voyait beaucoup de pharisiens et de sadducéens venir au baptême, il leur dit, « Vipère, qui vous a montré comment fuir à la colère à venir ? Produisez donc un fruit digne du changement radical. Et ne pensez pas pouvoir dire, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Déjà la hache est prête à attaquer les arbres à la racine. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau pour un changement radical. Mais celui qui vient derrière moi est plus puissant que moi. Et ce serait encore trop d'honneur pour moi que de lui ôter ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il a sa fourche à la main, il nettoiera son air, il recueillera son blé dans la grange, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus arrive de Galilée au Jourdain, vers Jean, pour recevoir de lui le baptême. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin de recevoir de toi le baptême, et c'est toi qui viens à moi ?» Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » Alors il le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus remonta de l'eau. Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix retentit des cieux, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » C'est en lui que j'ai pris plaisir. Avant de dire quelques mots sur les faits qui accompagnent le baptême de Jésus, puis sur le sens de ce baptême, j'aimerais dire quelques mots sur le lieu choisi par Jean pour baptiser, le désert. Est-ce anodin ou significatif que Jean-Baptiste baptise dans le désert ? En quoi ce détail apparemment anodin pourrait-il être théologiquement important ? Pendant plus de 300 ans, depuis la mort du prophète Malachi, il n'y a plus eu de parole prophétique en Israël. Et voilà que Dieu parle à nouveau par la bouche d'un prophète, et il le fait dans le désert. Vous le savez, le désert est un lieu familier dans l'histoire d'Israël. Bien des événements de son histoire se sont passés dans le désert. C'est en particulier le lieu où Dieu s'est souvent révélé à son peuple. Et puis, avec la période des 40 ans dans le désert après la sortie de l'Égypte, le désert est devenu le passage qui amène le peuple de Dieu dans le pays promis. Et dans notre cas, si nous voulons faire une analogie, d'une certaine manière, qui amène le peuple de Dieu à cette bonne nouvelle de l'Évangile en Jésus-Christ. Le lieu où Jean-Baptiste baptisait est donc loin d'être anodin. Et ce lieu est d'ailleurs renforcé par la description faite de Jean au verset 4. Jean avait un vêtement... Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Ses habits sont les habits du désert. Et c'est ici, à n'en pas douter, une allusion à un autre homme du désert, le prophète Élie. Vous avez une citation là du livre des Rois. Je lis, ils lui répondirent, c'était un homme couvert d'une toison. Il avait une ceinture de cuir autour des reins. Alors Akazia dit, c'est Élie le Tishbite. Pourquoi une allusion à Élie en parlant de Jean-Baptiste ? En accomplissement à la prophétie de Malachi. Cette prophétie qui dit que Dieu enverrait à nouveau le prophète Élie. Voilà la fin du livre de Malachi, la fin de l'Ancien Testament. Ce sont les derniers versets de Malachi. Je vous envoie Élie le prophète, avant que n'arrive le jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers les fils, et le cœur des fils vers leur père, de peur que je ne vienne mettre à mal le pays en le frappant d'anathème. Et c'est un peu plus tard dans l'Évangile, ici au chapitre 17 pour l'Évangile de Matthieu, que Jean le Baptiste, va être explicitement relié à Élie. Je lis Matthieu 17, versets 10 à 13. Les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils, il faut qu'Élie vienne d'abord ? Il répondit, il est vrai qu'Élie vient tout rétablir. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, ils vont faire souffrir le Fils de l'homme. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean le baptiseur. Pour bien comprendre toute la richesse théologique du désert dans notre texte, il faut comprendre ces choses, et puis il faut aussi noter le lien qui existe dans la parole de Dieu entre le désert et la repentance. Quand les prophètes appelaient à la repentance, quand ils appelaient à retourner à Dieu, ils appelaient le peuple à revenir à la relation de départ avec Dieu, et donc d'une certaine manière à revenir au désert. Ce lien entre désert et repentance est souligné dans notre texte par la pratique du baptême de la repentance dans le désert. C'est en baptisant que Jean est venu dans le désert, un baptême de repentance, de changement radical pour le pardon des péchés. Il n'y a pas de consensus sur l'explication de l'origine du baptême de Jean. Toutes sortes d'hypothèses ont été émises. Je ne rentre pas dans les détails. C'est intéressant, mais c'est au-delà de notre sujet ce matin. Ce que nous pouvons dire ici, c'est que Jean baptisait et que son baptême avait le sens de la repentance. Un baptême, dit le texte, de changement radical pour le pardon des péchés. Ainsi, en revenant au désert pour se faire baptiser, le peuple revenait à Dieu, vers Dieu, et se remettait symboliquement dans la position du Fils véritable. Et ainsi, il se préparait à être à nouveau conduit par Dieu. Le baptême de Jean traduit tout cela à merveille. Et il vient enrichir l'image du désert par celle de l'Exode. En se faisant baptiser par Jean dans le désert, le peuple s'engage d'une certaine manière dans un nouvel Exode. Et symboliquement, la traversée de la mer Rouge devient celle du Jourdain. C'est un peu théologique, hein, mais on va nouer la gerbe. C'est ainsi par son baptême de repentance que Jean prépare la venue du Messie. En venant se faire baptiser au Jourdain, dans le désert, le peuple quitte son Égypte, son état de désobéissance loin de Dieu, pour s'engager vers un nouveau pays promis. Et comme lors de la première traversée du désert, celle-ci va t'amener à une nouvelle alliance avec Dieu, la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Jean-Baptiste préparait donc le chemin du Seigneur. Il préparait sa venue, il la préparait par une prédication à la repentance, un appel à la repentance, par un baptême qui disait la repentance, et puis par l'annonce de celui qui ne baptiserait pas d'eau, mais d'Esprit Saint et de feu. Quelques mots maintenant, avant d'arriver au sens du baptême, sur les faits qui accompagnent le baptême de Jésus. Quels sont-ils ? Hormis l'immersion de Jésus elle-même dans l'eau, il se passe trois choses qui méritent notre attention. Premièrement, les cieux se déchirent. Deuxièmement, l'Esprit Saint descend vers Jésus comme une colombe. Et troisièmement, une voix du ciel identifie Jésus comme le Fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu a pris plaisir. Comme vous vous en doutez, ces détails sont tout sauf anodins. Ils sont chargés de sens. Et j'aimerais en dire quelques mots maintenant. Le premier des événements qui accompagne le baptême de Jésus, c'est le déchirement des cieux. Verset 16, « Alors les cieux s'ouvrirent pour lui. » La plupart des commentateurs, pour ne pas dire tous les commentateurs, s'accordent ici pour voir l'indication d'une révélation de Dieu. Et ils font le lien avec, en particulier, deux textes dans l'Ancien Testament. Ésaïe 63, 19 et le premier verset d'Ézéchiel. « Nous sommes depuis toujours comme ceux que tu ne gouvernes pas, sur qui ton nom n'est pas proclamé. Si seulement tu déchirais le ciel, si tu descendais, les montagnes crouleraient devant toi. » Et puis Ézéchiel 1, 1, « La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les exilés près du Kébar, le ciel s'ouvrit et j'eus des visions divines. » Dans ces deux textes de l'Ancien Testament, le déchirement des cieux correspond à une révélation de Dieu, à une manifestation de Dieu. Les cieux se déchirent quand Dieu se révèle. Et c'est certainement là le sens de ce qui se passe au moment du baptême de Jésus. Révélation de Dieu, très bien, mais révélation de quoi ? Principalement la révélation de la véritable identité de Jésus. À son baptême, Jésus est identifié comme le Fils bien-aimé de Dieu, en qui Dieu a pris plaisir. Révélation de quoi, mais aussi à qui? Que dit le texte? Si nous lisons attentivement le texte, nous pourrions penser que seul Jésus voit les cieux s'ouvrir. Seul Jésus voit la colombe descendre. Seul Jésus entend la voix de son Père. En tout cas, le texte ne précise pas que d'autres aient été le témoin de ces choses. Si c'est le cas, alors cette révélation de Dieu est pour Jésus tout seul. Et elle a pour but de l'encourager, de le fortifier. Il est au commencement de son ministère. Et ces paroles de son Père ont une portée immense. Elles ne seront pas de trop. Parce que souvenez-vous, tout de suite après le baptême, Jésus est emmené dans le désert pendant 40 jours pour y être tenté. Cependant, Jésus n'est sans doute pas le seul à avoir été le témoin de ces événements. Nous le savons parce que dans l'évangile de Jean, Jean lui-même dit être le témoin de ces choses et dit que d'autres aussi en ont été le témoin. Jean 1, verset 32, Jean rendit ce témoignage, « J'ai vu l'Esprit du ciel descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. » Et un peu plus loin, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui habite dans l'Esprit Saint. Moi-même j'ai vu et j'ai témoigné que c'est lui le Fils de Dieu. » Jean a vu l'Esprit Saint descendre comme une colombe. Il dit avoir été le témoin que c'est lui le Fils de Dieu. Il est donc probable qu'il ait aussi entendu la voix du Père. Et il est aussi probable qu'il ait vu les cieux se déchirer. Et peut-être même sans doute que tous ceux qui étaient là en ont été les témoins. Cette révélation du Père avait du sens pour Jésus, pour l'encourager, pour le fortifier au commencement de son ministère, mais elle avait aussi du sens pour tous ceux qui étaient là. Elle identifiait Jésus comme le Fils de Dieu. Elle marquait le commencement d'une nouvelle ère. Dieu se révélait à nouveau. Le premier des événements, donc accompagnant le baptême de Jésus, est le déchirement des cieux. Et c'est une indication d'une révélation divine. L'événement suivant, c'est la descente de l'Esprit comme une colombe vers Jésus. Que faut-il comprendre? Quel est le sens de cet événement? Je pars avec l'a priori que d'autres ont été le témoin de ces choses, pas seulement Jésus. Il y a trois possibilités, en tout cas trois possibilités plausibles de compréhension. Je les mentionne, mais je ne trancherai pas. Certains font ici le lien avec le début du livre de la Genèse, Genèse 1, 2, où il est dit que l'Esprit de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Le baptême de Jésus serait alors le commencement d'une création nouvelle à travers l'eau et le souffle divin. À noter, si c'est cela le sens, la présence de la Trinité au moment du baptême de Jésus, comme nous pouvons le constater dans le début du livre de la Genèse. D'autres vont relier cet événement, cette colombe, qui descend au moment du baptême de Jésus au récit de Noé, à la colombe du récit de Noé. Et si cela est le cas, alors nous avons dans la descente de l'Esprit comme une colombe le signe d'une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. Le signe qu'une alliance nouvelle est sur le point d'être conclue. Vous savez que quand Noé descendra avec sa famille du bateau, ça sera l'établissement d'une nouvelle alliance avec lui. Nous avons à nouveau ici l'idée d'une création nouvelle. D'autres enfin se réfèrent ici à l'utilisation de la colombe dans le judaïsme comme emblème d'Israël. Avec la descente de la colombe vers Jésus, Jésus serait ainsi identifié comme le véritable représentant d'Israël, le véritable représentant du peuple. Je vous laisse décider pour vous-même l'explication qui vous paraît la plus cohérente avec le reste des Écritures. Le troisième et dernier événement n'est pas le moindre, puisqu'il s'agit de la voix du ciel qui identifie Jésus comme le Fils de Dieu. Nous avons déjà parlé de révélation. Et ce que j'aimerais souligner ici, c'est le lien qui est généralement fait entre cette parole de Dieu le Père et deux textes dans l'Ancien Testament. En tout cas, deux portions de textes qui sont mis bout à bout. Une partie du psaume 2, verset 7, où nous retirons l'expression « mon fils », un psaume messianique, et puis Ésaïe 42, 1, d'où est tirée la parole « en qui j'ai mis toute mon affection ». Et ces deux extraits sont mis bout à bout et donnent à peu près ce que le Père dit à Jésus. Le psaume 2 est un psaume de royauté. Et Ésaïe 42 parle du Messie et de son œuvre. La voix du ciel révèle donc non seulement Jésus comme le Fils de Dieu, mais aussi et surtout comme le Messie roi. Le Messie roi qui est promis dans l'Ancien Testament. Il y a là une parole forte pour Jésus, mais aussi pour tous ceux qui sont présents et qui l'entendent. Voilà pour les faits. Passons au sens de tout cela. Pourquoi Jésus se fait-il baptiser d'un baptême de repentance, de changement radical, pour le pardon des péchés ? D'un baptême qui traduit qu'il y a eu un changement intérieur, qu'il y a eu une prise de conscience, qu'il y a eu repentance. Y avait-il des choses à changer dans la vie de Jésus ? Y avait-il en Jésus des péchés dont il a dû se repentir ? Certainement pas. En tout cas, l'Écriture affirme le contraire. Elle affirme que Jésus a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Mais alors, s'il n'est pas question de repentance pour Jésus, pourquoi se faire baptiser par Jean, dont le baptême est le signe de la repentance ? Un mot tout d'abord sur ce que Jésus dit à Jean-Baptiste, quand celui-ci s'oppose à son baptême. Jésus lui répondit, « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » Jésus s'est fait baptiser pour accomplir toute justice, ou traduit autrement, pour accomplir tout ce qui est juste. Jésus n'avait pas besoin de se repentir, et donc de manifester sa repentance par le baptême. Pourtant, en se faisant baptiser par Jean, il accomplissait ce qui était juste. Ce qui veut dire que le baptême de Jésus n'était pas une option, ce n'était pas une lubie ou que sais-je, mais quelque chose qui avait du sens dans le plan de Dieu et qui accomplissait ce qui est juste aux yeux de Dieu. Le deuxième élément de réponse à la question du sens du baptême de Jésus, c'est que celui-ci marque le commencement du ministère de Jésus, du ministère public de Jésus. C'est par le baptême que Jésus commence publiquement son ministère. Sans doute reçoit-il là, sur les bords du Jourdain, au travers de tout ce que nous avons décrit, un encouragement important et l'approbation du Père sur sa vie et sur son ministère. Certains parlent d'onction spéciale de l'Esprit pour son ministère. et en particulier, comme je l'ai déjà évoqué, pour faire face aux 40 jours de tentation qui vont suivre ce baptême. Notons bien qu'il faut comprendre cette descente de l'Esprit comme un équipement pour le ministère et non pas comme la réception du Saint-Esprit, tel que nous pouvons l'expérimenter en tant que chrétiens. Le baptême de Jésus correspond donc au commencement de son ministère, qui est aussi le commencement de son œuvre de création ou de recréation. Et ici, nous pouvons assez facilement faire le lien avec la colombe de Noé et tout ce qu'elle représente. Le baptême de Jésus inaugure son ministère, mais aussi cette nouvelle ère, un nouvel âge, celui de la nouvelle création possible par son œuvre. Le troisième et dernier élément de réponse à la question du sens du baptême de Jésus, c'est que celui-ci marque son identification complète avec le pécheur. Et c'est sans doute là le sens le plus important. En se faisant baptiser du baptême de la repentance, du baptême du changement radical pour le pardon des péchés, Jésus s'identifie au pécheur. Ce n'est pas la nécessité de la repentance, mais celle de l'identification au pécheur qui amène Jésus ce jour-là au bord du Jourdain. Jésus s'est d'une certaine manière uni à nous, aux pécheurs, dans son baptême, en s'identifiant avec nous. Lui qui n'avait pas de péché a pris la place du pécheur. Il l'a fait à la croix, bien sûr, mais il le fait là, au début de son ministère, pour bien signifier ce qu'il va faire plus tard. Lui donc, qui n'avait pas de péché, a pris la place du pécheur. Il s'est identifié au péché, et maintenant les croyants qui n'ont pas de justice reçoivent sa justice. L'apôtre Paul écrit aux Corinthiens, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il était juste et il est devenu pour nous péché, c'est-à-dire identifié au péché. Nous étions pécheurs et nous sommes devenus en lui justice de Dieu. Par son baptême, Christ s'identifie donc pleinement avec nous, en prenant la place du pécheur. Un commentateur dit que par son baptême, le Fils prend symboliquement sur lui les péchés que ses compatriotes ont déposés dans l'eau du Jourdain. C'est une belle image, mais qui nous aide à comprendre le sens. Mais ce n'est pas tout. En agissant ainsi, Jésus annonce aussi sa mort, et son ensevelissement et sa résurrection. Depuis, en suivant Jésus dans le baptême, à notre tour, nous nous identifions à lui. Et nous disons par le baptême que nous sommes morts avec lui, ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. Si Christ s'est identifié à nous, pécheurs, par le baptême, c'était pour un jour prendre notre place, notre condamnation, celle que nous méritions pour nos péchés, à la croix de Golgotha. C'était pour un jour pouvoir subir à notre place le châtiment juste que nous méritions pour nos fautes, subir à notre place la colère de Dieu pour nos péchés. Jésus a donc clairement annoncé la couleur dès le commencement de son ministère. Il n'est pas venu pour être le roi des Juifs, comme la foule l'a imaginé, comme les disciples l'ont cru, mais il est venu pour se substituer aux pécheurs, pour prendre sa place, pour prendre sa condamnation. C'est pour cela qu'il s'est pleinement identifié à nous. Là, près du Jourdain, Jésus, voyant les pécheurs aller vers Jean-Baptiste, a pris publiquement sa place avec eux, afin qu'un jour, ils puissent aussi mourir publiquement à leur place, à notre place. Le baptême de Christ, outre le fait qu'il marque le commencement de son ministère, marque donc aussi clairement son identification au pécheur en vue de se substituer à lui. Pour qu'il y ait substitution, il fallait qu'il y ait identification. Et nous avons un texte dans l'Épître aux Hébreux qui dit essentiellement les mêmes choses. Hébreux 2, versets 17 et 18 aussi, devait-il devenir en tout semblable à ses frères, afin d'être un grand prêtre compatissant et digne de confiance dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Devenir en tout semblable à ses frères pour faire l'expiation des péchés du peuple. Oui, Jésus, pour faire l'expiation de nos péchés, devait prendre notre place. Et pour cela, il devait s'identifier à nous. C'est là le sens de sa substitution. C'est là le sens profond de son baptême, qui a ce sens de l'identification. C'est là le but de sa venue. C'est là aussi toute la profondeur de l'amour de Dieu pour nous, manifesté en Jésus-Christ. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses pour sa gloire, mais aussi pour notre bonheur. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.